Merci Rémi, merci Didier, et merci à tout le monde. Donc, je commence avec une petite histoire. Quand j'étais à l'école, quand j'étais ado, j'avais beaucoup de boutons, hein, l'acné. Et chaque jour que j'allais à l'école, les gens, ils m'insultaient. Ils disaient « Oh, le boutonneux !» Et ça me faisait très, très mal. Et souvent, j'avais des bagarres, j'avais des colères, et c'était 2 ou 3 ans vraiment pénibles de ma vie d'avoir été si insulté. Et donc, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez jamais été vous-même insulté? Hein? Si vous avez des souvenirs d'insultes ou de malédictions, et je pense que quelquefois, on est insulté pour notre apparence, notre taille, notre état social. Mais quelquefois, on peut être insulté pour notre race, hein, pour notre différence. Hein, quelquefois, on est chrétien, évangélique. Hein. Mais bon, qui n'a pas été insulté, hein, dans la vie? Qui n'a pas été maudit? Et donc, je vais aller plus loin, mais ça, hein, c'est une histoire de poils, hein, une histoire de poils. Et donc là, cette poêle-là, c'est une bonne poêle parce qu'il y a une couche protectrice. Hein, en anglais, on appelait ça la couche Teflon. Hein, et donc comme ça, quand je cuisine une bonne œuf le matin, ça glisse. Mais si tu n'as pas la couche protectrice, ça colle et ça colle. Et ce qu'il faut pas faire avec ça, c'est de prendre une bonne fourchette et de gratter. Je vais pas le faire, hein, mais de gratter. Et vous savez, quand quelqu'un vous insulte, c'est comme s'il prend une fourchette, comme ça, c'est sa parole, hein, la fourchette sort de sa bouche. Et il gratte, il gratte, il gratte. Et surtout, il gratte le cœur, tu vois, parce que cette poêle, ça peut être notre cœur. Et ceux qui sont aimés, aimés par leurs parents, aimés par Dieu, aimés par un environnement positif, là, la couche protectrice est là. Et quelquefois, bon, les insultes collent pas trop. Mais quand tu as été vraiment blessé par les insultes, répétitif, matin après matin, on gratte, on gratte. Il y a des choses qui collent. Il y a des choses qui collent. Et ça peut être individuellement, mais ça peut aussi être une vérité pour les races et pour les nations qui ont été tellement abîmées par l'histoire, tellement abîmées, tellement, on a tellement enlevé toute couche de protection sur leur vie. Et donc, voilà, je remets ma poêle à la cuisine. Je vais pas la gratter, c'est bien, hein, je te promets. Est-ce que vous avez des souvenirs, des insultes, des malédictions qui collent à votre peau, qui collent à votre cœur? Et donc, je vais aller plus loin parce que il y a certaines insultes qui collent vraiment et qui collent même dans l'histoire. Et même dans l'histoire de l'Église. Donc, on va voir une histoire assez bizarre, assez choquant, qui se trouve au début de l'humanité. Au début de l'humanité, c'est Genèse 9. Et c'est l'histoire de Noé quand il a quitté l'arche. Et je ne sais pas si c'était l'après-confinement. Tu vois, il a été confiné dans l'arche pour tant de temps avec tous ces animaux. Et quand il a été déconfiné, il a pris une bonne cuite. Beaucoup de gens, ils disent, voilà, après le déconfinement, je vais boire un coup. Et Noé, après ce déconfinement, waouh! Bon, il a le temps, hein, c'est Genèse 9 et à partir de verset 20, hein, il sort de l'arche avec ses 3 fils, hein, Sem, Cham et Japheth. Hein, Cham, Ham, Sem et Japheth, hein, c'est ses 3 fils. Et En verset 20 hein, de Genèse chapitre 9, nous lisons « Noé se mit à cultiver le sol et planta une vigne. » Verset 21, « Il but du vin, s'enivra. » Hein, Noé, il s'est enivré et se découvrit au milieu de sa tente. Il était tout nu, tout vulnérable. Celui qui devait donner le bon exemple, qui devait être un bon père, il se trouve sous et nous, nus. Et après, on voit 22, Ham ou Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta au dehors de ses deux frères. Et tu vois, déjà, il y a là quelque chose de malsain qui se passe. Quelque chose d'horrible. Il y a un peu cette découverte de la nudité et il y a un abus là-dedans aussi. Hein. Je ne vais pas donner tous les détails, mais il y a quelque chose où il y a une sorte de concours de virilité entre un fils, un père et c'est pas bon. Et après, il raconte, il se moque et tout ça. Et après, tu as quelque chose de noble. On voit les deux frères, 23. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, marchèrent à reculant et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné. Ils ne virent pas la nudité de leur père. Et après, ça devient très épicé. Ça devient une malédiction qui colle. Et voilà, verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il faut remarquer ça. Se réveiller de son vin, il avait pris une bonne cuite, il avait une gueule de bois et il était énervé. Et il a pris ce qui lui avait fait son fils cadet. Il dit alors, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves pour ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave. Que Dieu mette Japheth au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Waouh! Et ça a explosé, une malédiction, cette malédiction a explosé comme une bombe au cœur et au début de l'histoire de l'humanité. Et je peux dire trois choses là, tu vois, et surtout quand on voit en ce moment, il y a beaucoup de discussions sur la race des gens hein, à la télé et dans les médias aux États-Unis, Black Lives Matter et tout ça. Et vous savez que l'Église n'a pas été très noble dans tous ces débats. Et même si on peut dire, oh, c'est pas moi, mais dans l'histoire, beaucoup de gens, surtout dans le temps de l'esclavage, dans le sud des États-Unis et ailleurs, on utilisait cette malédiction de Noé pour justifier la destinée de la race noire d'être esclave. Et vous pouvez étudier ça, hein, vous pouvez aller. C'est pour ça beaucoup d'érudits, d'universitaires, ils aiment pas trop l'Église. Ils disent, oh, mais cette Église raciste et tout ça. Et on peut dire, mais bien sûr, c'est pas nous. Mais c'est quand même dans l'histoire. Il y avait beaucoup de gens vraiment qui croyaient beaucoup à l'évangile, même en Afrique du Sud, pendant le temps d'apartheid. Et ils utilisaient beaucoup ce verset pour dire, voilà, Dieu a maudit le peuple noir pour qu'il soit des esclaves. Parce qu'il y a une triple malédiction. Qu'il soit l'esclave des esclaves, qu'il soit l'esclave, qu'il soit leur esclave. Trois fois, Noé dit ça. Et donc, moi, je veux un peu dire, mais quelle horreur! Quelle insulte qui a collé à la peau de la race noire depuis des siècles. Pourquoi la race noire? Parce que les gens, ils ont lu Ham, et en hébreu, Ham, ça veut dire chaud. Et donc, les gens ont dit, voilà, chaud, il doit être noir. Tu vois? Et donc, aussi, ils ont vu la descendance, ils ont vu Nimrod, hein, qui est un grand chasseur dans la jungle, et ils ont dit, voilà, et aussi, anthropologiquement, si on n'utilise que la Bible, Parce que la Bible n'est pas une science exacte. Tu vois, c'est une vérité exacte, mais c'est pas une science exacte. C'est pas une pure anthropologie. Mais les gens ont utilisé ça pour définir Ham comme la race noire. Et ils ont utilisé cette insulte pour coller ça à leur peau pendant des siècles et des siècles. Et donc, je vais pas aller beaucoup plus loin là-dedans, mais j'aimerais juste vous dire encore une chose. C'est pas Dieu qui maudit Ham. Et finalement, il maudit pas Ham, il maudit son quatrième fils, qui est Canaan. On dit Canaan? Et souvent, dans les gens, ils disent, mais pourquoi le quatrième génération? C'est encore une histoire de virilité. C'est Noé, il a eu 3 fils. Et après, le quatrième fils d'Abraham, ah, mais j'ai plus de fils que toi, j'ai plus de virilité. Toute cette histoire de découvrir la nudité, il y a quelque chose de très louche là-dedans par rapport à cette concurrence de virilité entre Ham et Shem. Et c'est pour ça que les gens disent que Noé, il a maudit Canaan, le quatrième fils, parce que c'était comme une malédiction pour dire, voilà, tu as un quatrième fils, mais moi, je vais le maudire. Tu vois, c'est une sorte de jalousie. Comme Noé n'a eu que 3 fils, mais lui, il a eu 4. Mais bon, tout ça, ça nous laisse dans une malédiction quand même. Et je veux dire, c'est beaucoup d'églises, ils ont dit, c'était Noé, c'était Dieu qui a maudit le peuple noir, mais c'est pas du tout ça. Déjà, c'est Noé qui a maudit. Et c'était un homme qui se réveillait d'une gueule de bois. Et donc, je pense que cette malédiction n'a pas beaucoup de crédibilité. Déjà, ça devait pas perdurer. Ça devait pas perdurer. Parce qu'un homme qui se réveille de son vin, tout énervé, tout nu, je sais pas ce qu'il a fait tout nu pendant toute la nuit. Hein, il s'est mis lui-même dans son propre pétrin. Et il n'avait pas le droit, je dirais, de faire une aussi grande malédiction sur son fils. Voilà. Mais pendant l'histoire, les gens ont utilisé, l'Église a utilisé ça pour maudire le peuple noir. Et je pense en tant qu'Église, nous, on peut dire, on se dissocie totalement de cette interprétation. Je pense que ça serait une bonne chose à dire, que nous, on veut rien savoir avec cette interprétation qui a collé à la peau de la race noire pendant des siècles et même aujourd'hui. Tu peux lire des interprétations, même aujourd'hui, qui vont dire, ah, voilà, c'est pour ça que le peuple noir est ennemi. Et ça crée beaucoup de tensions aussi entre le peuple juif et le peuple noir. Parce que, en verset 26, hein, il y a aussi un favori, hein, Sem. C'est là où on a les Sémites. C'est le verset 26. Hein, et là, Noé, il dit, mais béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Et donc voilà, c'est bien là. Dieu est avec moi, mais Ham, oh là là. Et donc Ham, il n'a pas dû aimer ça. Et donc, si tu restes dans cette interprétation très, très littérale, tu as beaucoup de tensions entre Sem et Ham. Et là, pendant toute la Bible, c'est une histoire de guéguerre entre les Sémites et les gens de Canaan. Hein? C'est une histoire d'épuration ethnique et tout. Hein? C'est terrible. Et nous, on veut pas rester là. Donc là, on va tourner la page, parce qu'il faut tourner la page de l'histoire aussi. Et après, on peut dire, mais il n'y avait pas... On va voir une bénédiction, maintenant, parce que bon, je vous fie quand même, on va aller plus loin. Je veux pas rester dans des insultes et dans les malédictions, mais je veux les traiter. Mais on va voir une bénédiction, maintenant. Genèse 12. Et c'est encore une histoire d'un papa, mais cette fois, c'est celui qui va devenir le père d'une foule de nations. C'est pas un père qui va se saouler, qui va se mettre tout nu, c'est un père qui va agir par la foi. Et donc, on voit, Genèse chapitre 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Merci. Je te bénirai. Merci. Je rendrai ton nom grand. Merci. Wow. Deviens donc une source de bénédiction. On voit la couche Teflon, là, la couche protectrice. Une couche, deux couches. Tu serais grand, tu serais béni, tu serais bien, Abraham. Tu serais une bonne nation. Et après, deviens une source de bénédiction. Quelqu'un qui a son cœur tout gratté, tout collant d'insultes, il peut pas bénir d'autres. Il va être misérable. Il va sortir des imprécations et la douleur et la colère va sortir de sa bouche. Donc, il faut changer ça. Et donc, verset 3, je bénirai ceux qui te béniront. Allez, je vais sauter un verset, je reviendrai. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et le mot hébreu là, c'est tous les clans. Vraiment tous les clans, toutes les frères et sœurs, les familles, les tribus, toutes les familles de la terre. Et moi, j'aime ça, parce que c'est pas un homme enivré qui bénit ici, c'est Dieu. C'est pas Noé enivré, c'est Dieu qui bénit. Et qu'est-ce qu'il bénit? Toutes les familles de la terre. Et donc, Dieu a très vite réparé la malédiction de Noé. D'accord? Il a très vite réparé, parce qu'il dit ici, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il a un cœur de bénir. Et donc, je pense que Ham, ou Cham, est inclus là-dedans, non? Toutes les familles de la terre. Ça veut dire, c'est la restauration. Et donc, pourquoi cette malédiction a perduré au-delà du verset 12? Malheureusement, ça a perduré jusqu'à l'Afrique du Sud. Ça a perduré jusqu'aux années 60. Tu pouvais avoir 1960 avec Martin Luther King. Tu pouvais aussi, ah, mais les Noirs sont maudits. Les animistes sont maudits, les pygmées sont maudits. Donc, c'est pas du tout le cas. Et ça n'aurait pas dû, parce qu'il y a une bénédiction. Mais, quelqu'un va me dire, ah, mais Robert, la bénédiction d'Abraham, ça c'est que pour ces sémites, tu vois. Cette bénédiction de Noé, c'est que pour des juifs, ça. C'est que pour des juifs. Et si t'as l'héritage juif, ah, est-ce que j'ai l'héritage juif, moi? Tu vois, et donc, et ça marche que pour vraiment les fils biologiques d'Abraham. Et aussi, ah, la malédiction est toujours là quand même. On ne peut pas lâcher quand même nos insultes, hein, parce que là, on peut dire la deuxième partie du verset 3, je maudirai celui qui te maudira. Ah, merci. Ah, j'ai encore une arme. Si quelqu'un me dit, Robert, boutonneux, je dis, ah, mais tu seras maudit à vie. Tu vas brûler maintenant. Tu vas être maudit par Dieu parce que tu m'as insulté. Tu vois, et donc, on peut garder aussi un peu, une petite rétaliation. C'est toujours là. Ah, il faut pas maudire les Juifs, n'est-ce pas? Ce peuple élu de Dieu. Et moi, j'aime bien les Juifs, hein. Faut pas me méprendre. Mais il faut pas non plus grossir la malédiction. Faut pas non plus grossir cette notion de malédiction. Il y a beaucoup de personnes, ils se réjouissent de maudire les Arabes parce qu'ils disent, ah, ils ont brûlé le drapeau israélien. Ah, ils vont être maudits! Je dis pas, je suis choqué qu'on brûle les drapeaux des pays et tout ça. Mais moi, je pense qu'il faut aller au-delà de la malédiction pour dire que le cœur de Dieu, c'est que toutes les familles, y compris les clans arabes, y compris les clans de toute race, seront bénis. Et je pense qu'on a une tendance humaine de rester dans la malédiction parce que nos cœurs ont été trop grattés par la fourchette de l'insulte. Et donc, pour terminer, parce que moi, vous réfléchissez, hein, je veux semer beaucoup d'idées, et je veux que ça soit personnel. Moi, est-ce que je suis béni ou maudit? Est-ce que mon nom va devenir grand? Est-ce que j'ai cette couche teflon de bénédiction dans mon cœur? Voilà, je suis un béni de Dieu. Et on peut dire, ah, mais si seulement j'étais juif, ça serait beaucoup plus clair. Mais voilà, maintenant, il faut tourner toutes les pages de l'histoire. On va tourner peut-être 3 ou 4 000 ans d'histoire. Et on va arriver, tu vois. Bon, en passant là, on va arriver, on passe par Absalom, l'histoire d'Absalom. Tu connais l'histoire d'Absalom? Absalom. C'est un homme qui avait de longs cheveux. Et après, dans une guerre, ses cheveux étaient attrapés par les branches des arbres. Et Joab, qui était un guerrier avec David, il l'a tué avec une lance. Et il est une sorte de Christ qui mourait dans ce bois entre le ciel et la terre. Mais regardons Deutéronome. Je vais commencer à donner des solutions pour la malédiction. D'accord? Et déjà, on trouve en Deutéronome une grande solution pour toute bénédiction, toute insulte. Et c'est Deutéronome 21, chapitre 21. Et, Et c'est verset 23. Et c'est un drôle de verset qu'on trouve tout d'un coup dans ce livre de Deutéronome. Tellement prophétique d'un côté. Un verset que les gens ils pouvaient pas comprendre à l'époque. Mais regarde, verset 23. Et il parle des cadavres, des pendus et tout ça. Et il dit, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et c'est surtout celui qui est pendu au bois, tu vois, comme Absalom était pendu au bois, et une malédiction auprès de Dieu. Et ça nous fait penser à quelqu'un qui a été pendu au bois. Qui était pendu au bois. Et donc là, il faut voir Galates chapitre 3. Donc si vous oubliez tout le reste de ce que j'ai dit, il faut pas oublier ce que je vais vous dire maintenant. Parce que c'est la guérison de nos insultes, la guérison de tout ce qu'on a coltiné, tout ce qui a collé à notre peau pendant toute notre vie. Et donc, voilà, Galates 3, et à partir du verset 13. Est-ce que je suis juif? Ah non, je suis pas juif. Ah, je suis arabe, ou je suis pygmée, ou je suis chinois. Est-ce que les Chinois sont bénis? Non, ils sont pas aussi bénis que les Juifs. Est-ce que les Coréens sont bénis? Oh, pas aussi bénis que les Juifs. Est-ce que les Français sont bénis? Oh, pas aussi bénis que les Juifs. Est-ce que les Anglais sont bénis? Ah, ouais, beaucoup plus que les Juifs. Mais voilà. On va lire quelque chose maintenant. Il faut que ça soit vraiment accueilli dans nos cœurs. Christ, celui qui a été pendu au bois. Christ nous a rachetés de la malédiction. C'est vrai qu'il ajoute là de la loi. Mais moi, je veux juste pour un moment de méditation. Christ m'a racheté de toute insulte, de toute condamnation, de toute accusation. Parce que la loi, finalement, c'était un grand livre d'accusation. Tu n'es pas à la hauteur. Tu n'es pas bon. Tu es loin d'être parfait. Tu es loin d'être ce que je veux que tu sois. Toutes ces manipulations des paroles des autres qui deviennent des insultes quand c'est dit avec colère. Et nous avons très clairement que Christ m'a racheté de toute malédiction. Que mes parents, peut-être ils m'ont répété « t'es nul ». C'est une sorte de loi. Parce qu'ils avaient leur loi, je m'adaptais pas forcément à leur loi. Et toute personne qui t'insulte, c'est parce qu'il veut te marginaliser, voilà. Mais Christ nous a racheté de toute malédiction. Étant devenu malédiction pour nous. Donc tu peux quelquefois quand ça blesse, quand on a un cœur blessé, il faut prendre l'insulte, il faut prendre le mal, et il faut placer ça sur Christ. Il faut voir que quand Christ est mort sur la croix, tu peux placer, tu peux même faire ça physiquement, une sorte de geste, tu dis, voilà Seigneur, je prends ce mot que j'ai eu quand j'étais petit, boutonneux. Bon, je fais simple pour rire, il y a beaucoup plus grave que boutonneux. Hein. Bon, tu sais, quelquefois on dit des choses, ça colle vraiment à la peau, hein. Il y a des choses horribles qu'on peut dire aux gens. Mais tu prends ça, si tu as été victime de ça, tu prends ça, et tu l'as dit, voilà, je place sur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais qui ôte pas juste le péché, qui ôte l'insulte et qui ôte la malédiction. Et donc, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Ça, c'est la traduction grecque de ce que nous venons de lire. En hébreu, en Deutéronome. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Jésus était celui pendu au bois pour nous. Afin que pour uniquement les Juifs, non, afin que pour uniquement les Américains, afin que pour uniquement la race blanche, afin que pour uniquement les gens d'une certaine classe sociale, afin que pour uniquement, non, maintenant, c'est l'accomplissement véritable de la bénédiction d'Abraham. Plus de malédiction. D'accord? Il n'y a plus de malédiction maintenant. Christ a ôté la malédiction. Oh, si tu insultes trop péril, tu seras maudit. Non, il n'y a plus. Il n'y a que la possibilité de bénédiction. Il n'y a que la possibilité de bénédiction. Afin que pour les païens, tu sais, bon, ce mot, c'est un peu un vieux mot maintenant, païen. T'es païen. Est-ce que t'es païen, Sylvain? J'ai fait païen avant d'être chrétien. Mais le mot en grec, c'est ethnie. Afin que pour toutes les ethnies, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ. Tu seras grand, tu seras béni, tu seras une source de bénédiction pour toute ta famille, pour tous les gens autour de toi. Deviens une source de bénédiction. Sois libéré de tes malédictions. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette historique personnelle, nationale? On a accumulé un tas de nourriture, hein. Là, on a cuisiné pendant des milliers d'années. On a cuisiné des choses horribles. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Mais tu mets ça sur Christ. Et même dans ta propre histoire, avec toutes les malédictions, tu peux mettre ça sur Christ. Tu peux mettre ça sur Christ maintenant. Afin que pour moi, un païen anglais, un païen français, un païen suisse même, on peut, pour toutes les races maintenant, j'ai plus besoin d'être jaloux de Sem. J'ai plus besoin. Parce que moi, j'ai le même héritage qu'Abraham. La bénédiction. Et tu sais, bénédiction ici, c'est oulogie. C'est ou, c'est bon. Et logia, c'est parole. Une belle parole. Qu'une belle parole soit dite sur moi. Une belle parole. Une oulogie, une bénédiction. Se trouve en Jésus-Christ. Donc, comment ça, Seigneur? Est-ce que je dois aller à genoux, à Lourdes, allumer une bougie à tous les saints? Non. Est-ce que je dois être gentil? Voilà, essayer d'être un petit peu mieux. Non, c'est par la foi, par la foi. Nous sommes sauvés, bénis, pas par nos propres œuvres, mais par l'œuvre de Jésus-Christ, pendu au bois, pour prendre toutes nos malédictions. Et maintenant, par cette foi, ah, la foi vient de ce que nous entendons. Entends ce matin la réalité de ta délivrance, de toute insulte, de toute malédiction en Jésus-Christ, que par la foi nous recevions, la promesse de l'Esprit, Et le Saint-Esprit, il entre en nous et il nous donne une énorme couche Teflon. Et là, même si quelqu'un il t'insulte en plein figure, ça glisse. Même cette personne qui te blesse chaque jour par sa fourchette acerbée, ça fait plus rien. T'es protégé et tu peux devenir une source de bénédiction. Et même ta propre langue, tu vas plus maudire les gens. Tu vas plus maudire les gens. Une grande lutte, ça. Pas insulter les gens. Mais j'aurai une parole de bénédiction. Et qu'est-ce que c'est finalement cette promesse de l'Esprit? On peut dire que c'est Pentecôte, la promesse du Père, et après voilà, boum, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont prêché l'Évangile. C'est sans doute ça. Mais avant Pentecôte, il y avait une autre promesse de l'Esprit qui était proclamée par un beaucoup plus grand que Noé, par Dieu le Père. Même c'est une promesse plus grande que celle qui était donnée à Abraham en Genèse 12. Et on va le trouver, c'est en Luc. Et honnêtement, c'est la promesse de l'Esprit qui annule toute malédiction. Et quelquefois, je vois Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Hein, c'est Luc 3, 21. Et je veux que vous imaginez que Jésus ici, qu'il est Shem, qu'il est Hem, qu'il est le fils maudit de Noé. Parce qu'il était là pour nous tous, là, dans cette eau. Il est juif, bien sûr. Il est juif. Oh, voilà, le salut vient des juifs, hein. Merci, merci pour cette culture. Mais maintenant, moi, j'ai vu Christ dans une femme pygmée. Oh, j'ai vu Christ dans une chinoise. Ah, il est tellement beau, Jésus. Il est tellement beau. Il n'est pas juste hippie maintenant avec ses longs cheveux, une robe. Il n'est pas juste limité à une époque d'Israël. Il est beau, Jésus. Parce qu'il est là pour bénir toutes les familles de la terre. Il est l'incarnation de la promesse d'Abraham. Donc, il faut imaginer que, bon, bien sûr, c'est Jésus. Mais il faut imaginer toutes les races de la terre qui sont là. Tous ceux qui ont été insultés, là où on a dit, voilà, toutes les tziganes, toutes les blacks, les noirs, les arabes, les chinois, les coréens, les asiatiques. Et tu sais, quand on a fait les guerres, tous les Allemands, voilà, les Allemands. Tu vois, tout mon racisme qui sont les Japonais, toute personne, il est là. Et là, il y a la promesse de l'Esprit. Qu'est-ce que c'est cette promesse de l'Esprit? Je vais le lire. Luc 3, 21. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint, voilà, cette promesse de l'Esprit, descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et il vient une voix du ciel. C'est la voix du Père, n'est-ce pas? Beaucoup plus gentille que la voix de Noé. Hein? Dieu ne se réveille pas avec une gueule de voix pour maudire l'humanité. Là, Dieu, il est rempli de compassion pour bénir. Et il dit, tu es mon fils, bien-aimé, objet de mon affection. Et là, c'est tout ce qu'on a besoin d'entendre. Cette bénédiction, cette promesse de l'Esprit. Recevons ensemble cette promesse de l'Esprit par la foi. Là-dedans, il y a toute la bénédiction d'Abraham aussi. Et voilà, que la couche protectrice soit restaurée. Tu es ma fille. Voilà, il faut imaginer Jésus ici aussi comme une femme pygmée dans les eaux. Moi, j'ai vu beaucoup de femmes pygmées dans les rivières, dans les forêts équatoriennes de Centrafrique. Je voyais ces femmes pygmées dans l'eau. Je voyais les femmes pygmées qui chantaient. Je voyais le Saint-Esprit qui était sur leur visage, qui rayonnait. Et tu peux dire ça, bien sûr, pour les femmes aussi. Tu es ma fille, bien-aimée, objet de mon affection. Et donc voilà, je vais terminer, on va prier. On va peut-être faire en deux étapes. On va prendre, premièrement, prendre, juste peut-être symbolique, mettre ta main sur le cœur, là, et comme si tu allais ramasser des gerbes. Comme si, et tu prends un petit moment et tu penses aux insultes qui collent. Qu'est-ce qui colle, là? Quelle insulte a collé? Bon, ça peut être une insulte, une malédiction ancienne. Et ça te blesse quand tu penses à ça. Peut-être c'est quelque chose que tu as reçu il y a une semaine, quelqu'un t'a insulté, je sais pas. Mais tu prends ça et tu ramasses ça comme on extirpe une mauvaise herbe. Et on arrache ça et on le met sur la croix. Parce que Jésus était pendu au bois pour cette malédiction. Donc voilà, on va le faire. Seigneur, j'arrache de mon historique, de mon histoire, toute malédiction et toute insulte. Seigneur, et merci car par ma force je peux rien faire, mais tu es devenu malédiction pour moi. Tu as ôté la malédiction, l'insulte. Et je place cette malédiction sur toi, Jésus. Et tu veux que je place ça sur toi. Parce que tu étais assez grand. Tes épaules sur la croix étaient assez grandes pour porter tout ça. Donc je te donne toutes ces mauvaises paroles. Et je te demande aussi en faisant ça, pardon pour nos églises dans l'histoire qui ont justifié l'esclavage, qui ont fait perdurer des malédictions contre la race noire. Seigneur, pardon, pardonne-nous. Pardonne-nous pour nos racismes. Pardonne-nous pour nos mauvaises langues, nos blagues, nos insultes qui coulent si facilement, on dit des mots, des insultes. Et donc, encore là, Seigneur, ta grâce est suffisante pour nous pardonner de tout ça, parce que tu es devenu malédiction. Merci que que toute la malédiction est finie en Jésus-Christ. Et Seigneur, voilà, ça c'est la première partie. Et maintenant, Seigneur, je reçois une couche protectrice sur mon cœur. Seigneur, je reçois une couche protectrice sur mon cœur. Je reçois par la foi la promesse de l'Esprit, la promesse de l'Esprit qui descend sur moi comme une colombe. Et avec le battement de ses ailes, il reconstitue en moi une couche protectrice sur mon cœur. Tu me renouvelles, Seigneur. Et donc, Seigneur, j'entends ce matin cette promesse de l'Esprit. Tu es ma fille, tu es mon fils, bien-aimé, objet de mon affection. Seigneur, guéris-moi, restaure-moi. Et fais de nous, Seigneur, ces gens comme Abraham, qu'on soit tous comme Abraham. Rends notre nom grand, Seigneur, pas la grandeur de l'orgueil, mais la grandeur de l'amour. Fais de nous une source de bénédiction pour ceux autour de nous, une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.